Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Arménie vise le renforcement de la coopération avec l'Indonésie. L'Agence nationale de planification du développement, ou BAPENAS, et le Japon coopèrent dans la gestion des catastrophes. Menaker estime que les accidents du travail ont diminué à l'ère industrielle 4.0. L'Indonésie devient le pays partenaire du plus grand salon du tourisme d'Autriche. La zone industrielle de Kendal absorbe 50 investisseurs. Merci a transmis à la ministre indonésienne des Affaires étrangères le développement de l'hôpital de l'amitié entre l'Indonésie et le Myanmar. L'ambassadeur a confirmé que les citoyens indonésiens aux États-Unis pourraient utiliser leur droit de vote. Chers auditeurs, voici le journal complet. L'ambassadeur d'Arménie en Indonésie, Zionik Agharijanian, a déclaré que son pays renforcerait davantage sa coopération bilatérale avec l'Indonésie en 2019, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'économie et du commerce. Selon Agharijanian, la distance entre les deux pays est encore l'obstacle à une coopération maximale. L'Arménie est l'un des pays amis de l'Indonésie qui a ouvert son ambassade à Jakarta il y a 4 ans. En tant que l'un des plus anciens pays au monde, a fêté ses 2800 ans en 2018, l'Arménie considère l'Indonésie comme un partenaire stratégique. Mardi soir, à l'exposition des photos à l'hôtel à Antara, l'ambassadeur d'Arménie en Indonésie, Zionik Agharijanian, a déclaré qu'en 2019 était le moment de renforcer sa coopération bilatérale qui avait été construite mais ne fonctionnait pas encore de manière optimale. La coopération sera commencée en encourageant l'augmentation du nombre de visites touristiques et le renforcement de la coopération économique et commerciale. Selon Zionik, la coopération dans les secteurs du tourisme, de l'économie et du commerce entre l'Indonésie et l'Arménie jusqu'à présent face aux défis, à savoir la distance entre les deux pays. Selon les données de l'ambassade arménienne en Indonésie, le nombre de touristes indonésiens en Arménie en 2017 a atteint 400 personnes. Et la valeur commerciale entre les deux pays en 2017 n'a atteint que 4 millions de dollars américains. Les principaux produits de l'Indonésie sont le café, le poivre et l'huile, de l'Arménie et les fruits séchés tels que les abricots, les pêches et les poires. La collaboration est en effet lente en raison de la distance entre les deux pays. Mais je suis sûre qu'avec nos désirs, à l'avenir, par divers efforts à la coopération entre hommes d'affaires, il sera atteint au maximum. L'Indonésie est un grand pays qui a beaucoup de produits et l'Arménie ne l'ont pas. Mardi soir, le 15 janvier 2019, l'ambassade arménienne pour l'Indonésie a organisé le lancement du livre et l'exposition de photos sur l'Arménie intitulée « Arménie, le pays de la légende » à Wisma Antara, Jakarta. L'exposition de photos est devenue l'un des médias de présenter l'Arménie plus près au public indonésien. L'Arménie, qui a seulement une population d'environ 3 millions de personnes, est unique parce que ce pays n'a pas de mer. C'est parce que ce pays est flanqué par la Turquie à l'ouest, la Géorgie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran au sud. L'Agence nationale de planification de développement, ou BAPNAS, collabore avec le Japon par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale afin de renforcer la capacité des représentants du gouvernement régional indonésien dans la gestion des catastrophes. C'est ce qu'a déclaré par l'autre fonctionnaire de l'Agence nationale de planification de développement, Sumedi Andono Mulyo, à Antara, Jakarta, mardi. Il a déclaré cela après le séminaire sur les résultats des études de gestion après la catastrophe à Palu, Sigi et Donggala, tenu au bureau de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI. Concernant le renforcement des capacités des responsables des gouvernements régionaux en matière de gestion des catastrophes, 24 représentants de gouvernements locaux d'Indonésie étudieront au Japon. La formation est une assistance japonaise pour l'Indonésie. Sumedi a déclaré que chaque classe étudierait au Japon pendant environ 10 jours. Le ministre de la Main-d'œuvre, Hanif Dakiri, estime que les accidents de travail diminueront à l'ère industrielle 4.0 ou à l'ère numérique. C'est ce qu'a affirmé le ministre Hanif à Istora Senayan, Jakarta, à la suite du mois de 4.3, Sécurité à la santé au travail. Toutefois, 4.3 doit rester une priorité pour toutes les entreprises. Il espère également que toutes les parties feront des efforts concrets pour mettre en œuvre 4.3 dans leur environnement respectif. Il a déclaré que la numérisation de l'industrie avait un impact sur les relations industrielles, les relations de travail et les procédures de travail relatives au risque potentiel de l'entreprise. Hanif a ajouté que dans le domaine de la main-d'œuvre, la qualité des ressources humaines était un défi à l'ère industrielle 4.0, car une partie du travail qui est normalement effectuée par l'homme sera remplacée par des machines. Pour cette raison, le ministère de la Main-d'œuvre se concentre sur l'amélioration des compétences des travailleurs dans le cadre de divers programmes, y compris la formation professionnelle. L'Indonésie est le pays partenaire du plus grand salon annuel du tourisme en Autriche, Ferienmaß Wien 2019, qui se tient à Vienne, en Autriche, du 9 au 13 janvier 2019. Lors de la plus grande exposition touristique d'Europe orientale, l'ambassade d'Indonésie à Vienne, en collaboration avec le ministère du Tourisme, a promu l'Indonésie avec le thème de 10 destinations de Nouvelle-Bali. La fonction d'information socio-culturelle indonésienne de l'ambassade de l'Indonésie à Vienne, Danur Doro Parno Hadiningrat, a déclaré mardi à Antara News Londres que les entrepreneurs de voyagistes avaient exprimé leur satisfaction de commercialiser des produits touristiques indonésiens. Au cours de ces 4 jours de l'organisation, FMW, ou Ferienmaß Wien, a attiré l'attention plus de 150 000 visiteurs provenant d'Autriche et de divers pays voisins comme la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. L'ambassadeur d'Indonésie en Autriche et en Slovénie, Darmansyah Jumala, a déclaré que l'élection de l'Indonésie en tant que pays partenaire du FMW 2019 montre l'attention et l'enthousiasme du tourisme autrichien pour le potentiel touristique de l'Indonésie. Le ministère de l'Industrie a apprécié la zone industrielle de Kendal, qui a attiré 50 investisseurs avec un objectif d'investissement de 6,5 trillions roupies et l'absorption d'employés de 5000 personnes jusqu'à la fin 2019. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, a déclaré lundi, sur les 50 entreprises, 7 entreprises sont déjà en activité, 3 entreprises sont en train de construire et 12 entreprises se chargent de l'administration comme l'octroi de licences et la préparation de la conception des bâtiments. Les autres secteurs ciblés par les investisseurs sont les industries de l'électronique, de l'automobile et de la chimie de base. Stanley cible qu'au deuxième trimestre 2019, les investisseurs se développeront plus rapidement car les conditions seront plus stables. Le ministre de l'Industrie espère que la zone industrielle de Kendall, qui commence à opérer depuis 2016, pourra devenir l'une des grappes intégrées, pouvant être un exemple du développement d'autres zones industrielles en Indonésie. L'organisation bénévole, le Comité de secours médical d'urgence, ou MERCI, à Jakarta, a rencontré mardi la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, pour transmettre le développement de l'hôpital de l'amitié entre l'Indonésie et le Myanmar. Sarbini Abdul Murad a déclaré que l'assistance du ministère des Affaires étrangères dans la construction d'un hôpital à Myanmar était extraordinaire. Par conséquent, sa partie qui a collaboré avec la Croix-Rouge indonésienne, ou PMI, et le représentant bouddhiste indonésien, Walubi, avec le soutien des gouvernements indonésiens et du Myanmar, a transmis son appréciation au gouvernement, en particulier au ministère des Affaires étrangères. Sarbini a expliqué au ministre des Affaires étrangères que le développement de la construction de l'hôpital jusqu'à la fin de décembre 2018 avait atteint plus de 70%. L'ambassadeur d'Indonésie aux États-Unis, Budi Bowo Leksono, a déclaré que la préparation de la mise en œuvre des élections de 2019 aux États-Unis s'est déroulée bien pour assurer que les citoyens indonésiens peuvent utiliser leur droit de vote. Aux États-Unis, le nombre d'électeurs citoyens indonésiens est d'environ 51 000 personnes. Cela a été dit par Budi Bowo Leksono à l'ambassade d'Indonésie à Washington DC, lundi à l'heure locale. Selon lui, certainement les citoyens qui sont inscrits sur les listes électorales peuvent utiliser leur droit de vote lors des élections législatives et présidentielles qui ont lieu simultanément. L'ambassadeur a révélé que les différentes voix provenant d'une quinzaine de croisières seraient ensuite réunies au consulat général de la République d'Indonésie à San Francisco. Il a également ajouté qu'en raison des envois postaux et d'un certain nombre d'autres mécanismes, les élections à l'étranger commençaient généralement plus tôt qu'en Indonésie, mais les résultats des élections avaient été calculés le même jour que le décompte des voix dans le pays. Chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Le titre du commentaire d'aujourd'hui est l'impact politique du rejet de l'accord du gouvernement britannique avec l'Union européenne par le Parlement. La décision de la majorité des Britanniques de sortir leur pays de l'Union européenne est entrée dans un nouveau problème. Le problème s'est posé lorsque la plupart des parlementaires britanniques n'ont pas écouté l'appel de la première ministre britannique Theresa May à soutenir son accord avec la communauté européenne. Lors d'un vote mardi à Londres, la majorité des membres du Parlement britannique a rejeté le projet d'accord conclu par le gouvernement avec l'Union européenne. Le refus a été fait non seulement par les députés de l'opposition, mais également par les partis du gouvernement. Auparavant, la première ministre Theresa May a déclaré que le rejet des accords avec la communauté européenne décevrait le peuple britannique. L'un des accords entre le gouvernement britannique et l'Union européenne est que la Grande-Bretagne versera environ 770 trillions de roupies à l'Union européenne. En outre, les deux parties sont convenues d'une période de transition qui leur permettrait d'éviter des perturbations dans le secteur des affaires et le commerce. En effet, il n'y aura pas de changement significatif avec l'accord du 29 mars 2019 au 31 décembre 2020. Le Premier ministre Theresa May et ses partisans réfléchissent au rejet par la majorité des membres du Parlement britannique. En plus d'anticiper les problèmes du pays, Theresa May a également beaucoup réfléchi pour convaincre l'Union européenne de la mise en œuvre des accords convenus. Il est possible que le Premier ministre britannique approchera et des efforts pour apporter des ajustements à l'accord. Cela est encore possible car l'accord entre le gouvernement britannique et l'Union européenne est politique. À l'intérieur, les critiques ont été lancées à propos du Brexit parce que les membres du Parlement estimaient que Theresa May ne réalisait pas l'espoir que la Grande-Bretagne reprenne le contrôle total d'un certain nombre de politiques économiques et commerciales menées par l'Union européenne. Une autre question cruciale après le Brexit est la réglementation des frontières dans la région des Landes du Nord. Si, au sein de l'Union européenne, la frontière entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord n'est pas physique après la sortie de l'Union européenne, la frontière devait être évidente sous la forme d'un mécanisme de contrôle, en particulier pour contrôler le flux de marchandises. La première ministre, Theresa May, doit appliquer le résultat du référendum il y a 2 ans. Il s'agit d'un test pour son gouvernement parce que l'impact de la non-approbation de l'accord avec l'Union européenne est la menace d'un vote de censure du Parlement. Chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Voice of Indonesia.
Serviteurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Vincent Auriol est élu président de la France le 16 janvier 1947. Le 16 janvier 1947, Vincent Auriol est élu président de la France jusqu'en 1954. Il est né en 1884 à Revel en France et commence sa carrière d'avocat. Auriol était un membre du Parti Socialiste en France et a fondé un journal socialiste en 1908. Il a commencé à se présenter aux élections en 1914. Un an plus tard, il est élu maire de Toulouse. Sa carrière s'est développée depuis son élection en tant que ministre des Finances français. L'un de ses politiques les plus célèbres est sa dévaluation de la monnaie de franc de 30% par rapport au dollar américain en septembre 1936, qui a provoqué la fuite des capitaux et l'incertitude économique en France. Vincent Auriol est décédé en 1966. L'autre information est sur Shah Pahlavi, quitte l'Iran le 16 janvier 1979. Le 16 janvier 1979, avec la résistance croissante du peuple iranien au régime au pouvoir du pays, Shah Mohammad Reza Pahlavi, le dernier roi de l'Iran, a finalement décidé de quitter l'Iran pour des raisons médicales. Mohammad Reza Pahlavi a monté sur le trône en 1944 après que son père, Shah Reza Pahlavi, soit exilé par les forces alliées en raison de son soutien à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. L'agitation politique a transformé en une révolution le 16 janvier 1978. À force, le Shah a quitté l'Iran après être arrivé au pouvoir pendant 37 ans. Les forces révolutionnaires ont transformé son gouvernement en une république islamique dirigée par l'ayatollah Ruhollah Khomeini, un religieux chiite iranien. Mohammad Reza Pahlavi et toute sa famille se sont retirés en Égypte jusqu'à la fin de sa vie où il a obtenu l'asile politique du président Anwar Sadat. Serviteurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
hati, ketenangan di dalam diri, atau tempat pautan hati, salahku sendiri. Dikaulah mutiara yang lama ku cari.
Serviteur, c'était la chanson intitulée Mutiara yang hilang, chantée par Jelita Septiana. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulée L'autorité du service financier prépare 5 politiques pour encourager la croissance économique. Serviteur, nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre L'autorité du service financier prépare 5 politiques pour encourager la croissance économique. L'autorité du service financier, OJK, prépare 5 initiatives politiques pour soutenir le financement des secteurs prioritaires du gouvernement afin de stimuler la croissance économique cette année. Le président du Conseil des commissaires de l'OJK, Wimbo Santoso, a déclaré dimanche à Jakarta que sa première politique serait élargir les options de financement à moyen et à long terme pour le secteur stratégique par le développement de financement à partir du marché des capitaux. Wimbo a ajouté que l'OJK encouragerait, faciliterait et fournirait des incitations aux émetteurs potentiels. La deuxième politique est que l'OJK encourage les institutions de services financiers à augmenter la contribution de financement au secteur prioritaire comme secteur des exportations, le remplacement des importations, le tourisme et le secteur du logement. La réalisation qui peut les soutenir comme le développement de systèmes de financement et les écosystèmes de soutien, y compris l'assurance de tourisme. Le JK soutient également l'accélération du rôle joué par l'Agence indonésienne de financement des exportations pour encourager les exportations. La troisième politique est d'élargir la fourniture d'un accès financier pour les micro, petites et moyennes entreprises ainsi que pour les petites communautés de régions éloignées qui n'ont pas été desservies par des institutions financières formelles. L'une d'elles consiste à créer une microbanque Wakaf qui sera ajoutée à 100 institutions à la fin 2019. Les institutions de services financiers seront également encouragées à accroître l'accès financier aux régions éloignées par l'utilisation de la technologie. OJK cible que l'indice d'inclusion financière puisse être augmenté à 75% cette année et devrait renforcer la protection des consommateurs du secteur des services financiers. La quatrième politique est que l'OJK encourage l'innovation de l'industrie du secteur des services financiers pour faire face à et utiliser la révolution industrielle 4.0. Il prépare un écosystème adéquat et encourageant les institutions de services financiers à numériser leurs produits et les services financiers avec une gestion des risques adéquate. En outre, OJK continue également d'améliorer l'alphabétisation communautaire en matière de services financiers basée sur la technologie et de renforcer l'application de la loi par les entreprises pilotes illégales qui nuisent à la communauté, y compris les entreprises qui empruntent et collectent des fonds. La cinquième politique consiste à utiliser la technologie dans le processus d'affaires, à la fois dans la supervision bancaire basée sur la technologie et dans l'octroi de licences plus rapides, y compris le processus de test d'adéquation et de test approprié allant de 30 à 14 jours ouvrables. Selon Wimbo Santoso, les politiques et les initiatives globales exigent une bonne collaboration avec toutes les parties prenantes. À cette fin, OJK demande à tous les acteurs du secteur de services financiers de réaliser une collaboration efficace afin de créer un optimisme mutuel afin d'accélérer une croissance économique durable. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Bilakah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Dia mengerti apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang
hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Andai Dia Tahu, chantée par Kahitna. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, nous nous rencontrons à nouveau dans la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons vous prendre voyager dans la province Bangka Belitung. Alors, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, La Voix d'Indonésie. Batu Belubang en français, la pierre Belubang, est le nom d'un village situé dans le district Pangkalan Baru, la résidence Bangka Central, la province des îles Bangka Belitung. Ce village est connu comme l'un des centres de production de poissons frais aux îles Bangka Belitung. En plus d'un grand potentiel de pêche, le village Batu Belubang a aussi un grand potentiel pour le tourisme maritime. L'un d'entre eux est la plage Tapak Antu. Cette plage a des sables blancs, les rochers propres et la mer bleue. La plage Tapak Antu n'est pas loin de la ville Pangkal Pinang, capitale provinciale de Bangka Belitung, à environ 15 km. Elle peut être atteinte pendant 25 minutes en transport terrestre. Son emplacement est conclu passant à travers le canton. Malgré cela, ce n'est pas difficile de trouver cette plage, car il y a un certain panneau. Pour entrer à la plage, l'entrée est gratuite. Vous devez seulement payer le parking. Pour les voitures, 5000 rupiah et pour les motos, 3000 rupiah. Comme les plages à Bangka en général, la plage Tapak Antu présente un beau panorama. La plage de sable blanc avec la mer bleue et les vagues calmes est remplie de grosses pierres blanches typiques de l'île Bangka. Le nom Tapak Antu est tiré du mot tapak qui signifie les pommes et antu qui signifie fantôme. Il est ainsi nommé parce que dans l'un des rochers de granit existant sur la plage, il y a un droit de trou en forme de semelle de pied droit et la communauté locale le considère comme fait la semelle de fantôme. Cette plage est équipée d'une aire de stationnement, une salle de bain ainsi que certains belvédères qui peuvent être utilisés par les visiteurs. Les militants de voyage dans le village ajoutent également à l'attractivité de la région pour développer un verger. La plage Tapak Antu a une belle vue car il y a beaucoup de formations rocheuses de granit géant sur le côté de la plage. Vous pouvez prendre des photos avec l'arrière-plan de ce géant formation rocheuse en granit. comme la plage en général. Sur cette plage, vous pouvez nager et ne devez pas se soucier parce que les vagues étaient assez calmes. Outre se prélasser des tendres dans le belvédère, vous pouvez aussi pêcher ou attraper des poissons. Ensuite, vous pouvez graver vos poissons capturés sur la plage. Parce que la plage est également située pas loin du village de pêcheurs et des ventes aux enchères de poissons, lors de la visite, n'oubliez pas d'acheter des souvenirs de poissons salés des villageois et acheter des poissons frais du port. Chers amis, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Voice of Indonesia.
Bila
Sergito, c'était la chanson de Latinka en titulé Aku Bisa Mati. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Nama-nama hari, je répète, nama-nama hari, en français, le jour. Bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation entre Tony et Sinta intitulée Nama-nama hari, ou en français, le jour. Tony et Sinta sont dans la cabine de l'avion. Sinta dit qu'elle va aller à Jogja pour un séminaire, tandis que Tony pour un voyage. Maintenant, Tony et Sinta parlent du plan de voyage de Tony, mais Tony a oublié les jours en indonésien.
Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan?
Iya, saya akan ke sana hari Senin.
Senin? Sekarang hari Senin?
Oh, besok hari apa?
Besok hari Selasa.
Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok hari Selasa. Mbak?
Lusa.
Lusa berarti hari Rabu.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiens liés au sujet d'aujourd'hui, nama-nama hari, ou en français, les jours. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Qui signifie vous irez au temple de Prambanan, non? Ya. Ya. Qui signifie oui. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Qui signifie j'irai. Saya akan ke sana hari Selasa. Saya akan ke sana hari Selasa. Je vais y aller le mardi. Tidak. Tidak. Qui signifie non. Saya tidak akan ke sana. Saya tidak akan ke sana. Qui signifie je n'irai pas. Hari ini. Hari ini, qui signifie aujourd'hui. Besok hari apa? Besok hari apa? Qui signifie demain et quel jour? Lusa. Lusa, qui signifie le surlendemain. Beaucoup de personnes vont à Yogyakarta pour visiter le temple de Prambanan, le plus grand temple hindou en Indonésie. Dans le dialogue, Sinta veut savoir est-ce que Tony va aller au temple Prambanan ou non. Pour cela, elle demande à Tony « Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan ?» Je répète « Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan ?» C'est-à-dire « Vous irez au temple Prambanan ou non ?» Alors, si vous voulez demander du plan de voyage de quelqu'un, dites Apakah Anda akan pergi ke? Apakah Anda akan pergi ke? Qui signifie vous irez à? Ensuite, montrez le lieu touristique. Par exemple, apakah Anda akan pergi ke Inggris? Apakah Anda akan pergi ke Inggris? Qui signifie, vous irez en Angleterre? Apakah Anda akan pergi ke Jakarta? Apakah Anda akan pergi ke Jakarta? Qui signifie, vous irez à Jakarta? Pour répondre à cette question, si vous allez au temple Prambanan, vous pouvez dire Ya, saya akan ke sana. Ya, saya akan ke sana. En français, oui, je vais y aller. Ou vous pouvez dire Ya, saya akan ke Candi Prambanan. Ya, saya akan ke Candi Prambanan. Qui signifie Oui, je vais aller au temple Prambanan. Mais si vous n'irez pas, vous pouvez dire Tidak, saya tidak akan ke sana. Tidak, saya tidak akan ke sana. Qui signifie Non, je n'irai pas. Ou vous pouvez dire Tidak, saya tidak akan ke Candi Prambanan. Tidak, saya tidak akan ke Candi Prambanan. En français, non, je n'irai pas au temple Prambanan. Les jours en indonésien sont Senin, lundi, Selasa, mardi, Rabu, mercredi, Kamis, jeudi, Jumat, vendredi, Sabtu, samedi, et Minggu, dimanche. N'oubliez pas des jours en indonésien. Et s'il vous plaît également, apprendre l'utilisation des mots sekarang, en français aujourd'hui, besok, en français demain, kemarin, en français hier, minggu depan, en français la semaine prochaine, dua hari yang lalu, en français, il y a deux jours et d'autres. Chers amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. Merci beaucoup pour votre attention. À demain.
Turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu kau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi di sini untuk setia. setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia.
Segrita setelah sangsong ang titulé setia chanté par le groupe musical Dikustik. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33.5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Segrita, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde. On se rencontre avec moi, Tiwi, dans le magazine Musica. Cette édition va vous présenter la chanson de Malik and the Essential. Malik and the Essential est un groupe formé le 15 mai 2002. Beaucoup de gens pensent que Malik and the Essential chantent seulement des chansons jazz. Mais en réalité, ils ont chanté différents types de musique. Ces œuvres ont toujours été bien accueillies par les mélomanes indonésiens. Et ils ont également obtenu divers prix. Cette fois, la chanson de Malik and the Essential que je vais vous présenter s'intitule Senandung Senandika. La chanson publiée en 2017 décrit quelque chose qui se produit lorsqu'on est dans la lune. C'est une guerre de sentiments dans l'âme, et une guerre de sentiments et de logique. Par cette chanson, Malik and the Essential ont également montré leur courage pour interpréter des autres types de musique. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Malik and the Essential dont le titre est Senandung Senandika. Bonne écoute!
Siapa kasih pengalah, siapa
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt!